Inde, la longue marche des partis communistes vers le réformisme. L'Inde est présentée comme une sorte, entre guillemets, de modèle démocratique parmi les pays pauvres. Mais ceux qui colportent ce genre de platitude se gardent bien de dire ce que cette prétendue démocratie cache de misère pour l'écrasante majorité pauvre de la population, de violence dans l'exploitation quotidienne qu'elle subit, et de brutalité dans la lutte qu'elle doit mener contre la rapacité de la bourgeoisie indienne et de ses donneurs d'ordre impérialistes. Or, malgré ces conditions difficiles, non seulement l'Inde a, depuis un siècle, un mouvement ouvrier vivant, mais c'est aussi l'un des rares pays au monde où un mouvement se réclamant de la tradition communiste, même lourdement marqué par sa caricature stalinienne, continue à bénéficier d'un soutien de masse dans la population pauvre. À ce propos, nous publions ici une version condensée de deux articles parus dans Class Struggle, la revue publiée par nos camarades britanniques de Workers' Fight, numéro 93, septembre 2011 et numéro 94, janvier 2012. Un parti communiste ouvrier dans l'Inde coloniale. Fondé en 1925, le Parti communiste indien, PCI, regroupait les cercles communistes constitués dans le pays après la révolution russe d'octobre 1917 et durant la grande vague de grève des années 1918-1921. En dehors d'une minorité de militants ouvriers issus de ces grèves, la plupart des cadres du nouveau parti venaient de la gauche du parti traditionnel de la bourgeoisie indienne, le Congrès national indien, dont Gandhi venait de prendre la direction. Ils appartenaient à une petite bourgeoisie nationaliste radicale, gagnée aux idées bolcheviques par la capacité de la révolution d'octobre à libérer la Russie du joug du féodalisme et de l'impérialisme, et impressionnée par la puissance de l'explosion ouvrière en Inde. En l'absence de tradition marxiste ou d'expérience militante, le PCI partait pour ainsi dire de rien dans la tâche colossale de construire un parti ouvrier révolutionnaire dans un pays de plus de 300 millions d'habitants à l'époque, dont environ 3,5 millions d'ouvriers. Tâche d'autant plus ardue que, en dehors de quelques courts intermèdes, la brutale répression de l'appareil colonial britannique devait le contraindre à la clandestinité jusqu'à l'indépendance en 1947. Le PCI se trouva donc d'autant plus dépendant de l'aide politique de l'Internationale communiste, et cela au moment même où l'influence croissante de la bureaucratie stalinienne, désormais au pouvoir à Moscou, commençait à l'entraîner dans une longue série de tournants opportunistes. Néanmoins, malgré ces tournants, malgré les arrestations continuelles, les assassinats de militants par les hommes de main du patronat ou par les forces coloniales, et malgré les procès récurrents qui privaient périodiquement le parti de sa direction, les militants communistes parvinrent à tirer parti des explosions sociales qui marquèrent l'entre-deux-guerres pour construire une organisation militante dont l'influence gagna peu à peu tous les centres urbains du pays. À la faveur d'une nouvelle vague de grève qui culmina en 1928 avec 3,2 millions de journées de grève officiellement recensées, essentiellement dans le textile de Bombay, dans les chemins de fer et dans l'industrie du jute à Calcutta, le PCI s'enracina dans le mouvement syndical. Lorsque la montée des embauches liée au début du réarmement de la Grande-Bretagne en 1935 entraîna une vague de combativité ouvrière, les militants communistes furent de nouveau au premier rang des luttes, à un moment où les nationalistes du Congrès pesaient de tout leur poids pour briser les grèves. Mais en même temps, le parti étendit ses activités dans les campagnes, où il joua un rôle important dans la formation de la première confédération pan-indienne des paysans, All India Kisan Sabha, sur la base d'un programme militant contre les systèmes féodaux asservissant la grande majorité des paysans. Avec la Seconde Guerre mondiale, le PCI fut pris à contre-pied par la politique de Staline d'alliance avec l'impérialisme britannique. Alors que le Congrès, n'ayant pas obtenu la promesse d'indépendance qu'il souhaitait de la part de la Grande-Bretagne, adoptait une politique de non-coopération avec l'effort de guerre, le PCI dut, non sans de violentes résistances dans ses rangs, se ranger dans le camp de la puissance coloniale et contenir la combativité ouvrière, perdant ainsi une partie du crédit qu'il avait gagné dans la classe ouvrière. Le PCI et l'indépendance de l'Inde. L'explosion sociale qui marqua la fin de la guerre permit au PCI de regagner le crédit perdu. Du début 1945 à la mi-1947, on recensa 27 millions de journées de grève. Face au Congrès qui, négociant alors avec Londres les conditions de l'indépendance, s'opposait à toute revendication sociale, le PCI se porta à la tête du mécontentement et apparut comme la seule force politique prête à exprimer la combativité des masses, dans les villes comme dans les campagnes. Moyennant quoi, les militants du PCI purent gagner la majorité dans l'unique confédération syndicale de l'époque, l'ETUC, Confédération panindienne des syndicats, dont la direction avait été jusque-là liée au Congrès, ce à quoi, il est vrai, le Congrès riposta en provoquant une scission minoritaire pour former sa propre confédération syndicale. En août 1947, vinrent le terrible bain de sang et le dramatique exode de population qui accompagnèrent l'indépendance de l'Inde et sa partition. Sans doute la démagogie religieuse employée par les deux grands partis nationalistes, le Congrès et la Ligue musulmane, dans leur rivalité, avait-elle sa part de responsabilité dans cette catastrophe. Mais le terrain avait été préparé de longue date par la politique de l'administration coloniale britannique, par ses recours occasionnels aux pogroms pour étouffer les conflits sociaux et, de façon tout à fait ouverte, par la promesse faite à la Ligue musulmane pendant la guerre de créer un État musulman indépendant en échange de son soutien à l'effort de guerre. Pourtant, loin de préparer la classe ouvrière à ce que pouvaient annoncer ces signaux menaçants, le PCI ne trouvait rien à redire à la démagogie des deux rivaux nationalistes. Il les appelait à former un gouvernement d'union nationale, en même temps qu'il donnait sa caution à la Ligue musulmane, au nom d'une caricature grotesque du programme communiste, présenté comme, entre guillemets, le droit bolchévique des nations à disposer d'elles-mêmes. Comme si la minorité musulmane avait été une nation opprimée par la majorité hindoue au sein de l'Inde coloniale, dont les communistes indiens auraient eu à gagner le soutien en reconnaissant son droit de faire sécession, voire en l'y encourageant. Comme si l'émancipation des masses indiennes pouvait se faire autrement qu'en réalisant leur unité, par-delà les nombreuses divisions qui les traversaient, pour bouter le colonialisme hors du pays et renverser les relations de propriété sur lesquelles reposait leur oppression sociale. C'était d'ailleurs une politique d'autant plus incompréhensible pour les travailleurs que, sur le terrain, les militants communistes et grévistes de toute confession qui participaient au mouvement de cette période devaient s'affronter avec les deux partis nationalistes dont l'opposition aux grèves prenait souvent la forme de gangs de gros bras envoyés pour casser du gréviste. La complaisance de la direction du PCI envers la démagogie religieuse à laquelle se livraient les leaders nationalistes ne pouvait que désarmer la classe ouvrière. Nul ne peut dire, bien sûr, si sur la base d'une politique différente, le PCI aurait réussi à mobiliser dans la population pauvre les forces nécessaires pour empêcher la partition de l'Inde et le bain de sang de 1947. Mais il ne l'a pas même tenté, et de ce fait, il porte sa part de responsabilité dans la catastrophe que constituèrent ces événements pour la population pauvre, tant du point de vue humain et matériel que du point de vue du recul de la conscience sociale qui en résulta. Là, entre guillemets, voie parlementaire vers le socialisme. Le PCI perdit un grand nombre de militants dans les pogroms et l'exode de la partition, puis du fait de la séparation du Pakistan oriental, le Bangladesh actuel, qui était l'un de ses bastions, et de la démoralisation que suscitèrent tous ces événements dans les rangs des classes pauvres. Et le cours ultra-gauche, ordonné par Moscou dans les premiers temps de la guerre froide, n'arrangea pas les choses, en le réduisant à la clandestinité dans plusieurs états de l'Inde. Tant et si bien qu'en 1951, il avait perdu les trois quarts de ses effectifs par rapport à la période précédant la partition. Néanmoins, il avait conservé un milieu, ce que l'on vit en 1952 lorsqu'il chercha à reprendre pied dans la légalité en présentant quelques candidats aux premières élections de l'Inde indépendante. Bien que ne présentant que 63 candidats sur plus de 500 circonscriptions, le PCI réussit à obtenir plus de 5 millions de voix, soit une moyenne de plus de 40% des suffrages exprimés pour ses candidats et 26 élus. Compte tenu de l'extrême émiettement de la scène parlementaire, le PCI se trouva ainsi propulsé au premier rang des partis d'opposition au Parlement indien. Tandis que les organisations du parti poursuivaient leurs activités militantes, sa direction commença à prôner, entre guillemets, la voie parlementaire vers le socialisme. Mais les rebondissements de la guerre froide vinrent compliquer les choses. Jusqu'alors, le gouvernement du Congrès de Nehru avait maintenu les relations privilégiées tant avec la Grande-Bretagne qu'avec les États-Unis. Mais à la suite d'un accord militaire passé par Washington avec le Pakistan en 1954, Nehru marqua sa mauvaise humeur en recherchant l'aide économique de l'Union soviétique. Du coup, Moscou se mit à vanter, entre guillemets, la politique progressiste de Nehru et le PCI se vit enjoindre de soutenir le pouvoir du Congrès. La ligne de Moscou eut du mal à passer dans les rangs du parti et ne fut qu'en partie appliquée. Lors des élections législatives suivantes, en 1957, le PCI présenta 90 candidats sans chercher d'accord avec le Congrès et ils obtinrent deux fois plus de voix qu'en 1952. Mais ce qui marqua cette élection, ce fut sa victoire au Kerala, le 11e État indien par la population dans le sud-ouest du pays. Avec le soutien de quelques indépendants, le PCI obtint la majorité absolue dans l'Assemblée de l'État et forma le premier gouvernement d'État non dirigé par le Congrès. Une fois au pouvoir au Kerala, le PCI annonça son intention de réaliser la timide réforme agraire promise par le Congrès après 1947 et oubliée depuis. Mais le gouvernement Nehru lança une violente campagne anticommuniste, allant jusqu'à réduire les livraisons au Kerala en céréales alimentaires, escomptant que la population blâmerait le PCI. Finalement, en 1959, le gouvernement PCI du Kerala, accusé par Delhi de représenter, entre guillemets, une menace pour l'ordre public, fut destitué. La, entre guillemets, voie parlementaire vers le pouvoir gouvernemental, sans même parler de celle vers le socialisme, se révélait pleine d'embûches. La scission de 1964. En octobre 1962, après de multiples incursions militaires indiennes en territoire chinois, Pékin prit l'offensive pour rétablir la frontière commune sur le tracé hérité de l'époque coloniale. Nehru fut contraint de reculer et, pour compenser l'affront subi, lança une violente campagne nationaliste, anti-chinoise et anti-communiste qui conduisit à une vague d'arrestations de militants du PCI accusés, entre guillemets, de trahison. Survenant peu après la rupture entre Moscou et Pékin, cette situation attisa les rivalités de factions au sein du PCI. Certaines prirent le parti de la Chine, d'autres trouvèrent des raisons pour soutenir la campagne nationaliste du Congrès, d'autres enfin refusèrent de prendre position. 2 ans plus tard, ces rivalités devaient aboutir à l'explosion du PCI, donnant naissance aux deux grands partis communistes actuels, le PCI maintenu et le PCI marxiste ou PCIM. Mais si la rupture sino-soviétique avait joué un rôle dans la scission, sa principale cause était ailleurs. Depuis la destitution du gouvernement communiste du Kerala, 2 positions s'opposaient dans le parti, entre les partisans du soutien au Congrès et ceux pour lesquels le parti devait occuper dans l'opposition toute la place à laquelle il pouvait aspirer. Derrière cette divergence, il y en avait une autre, plus ancienne, concernant la tutelle de Moscou, dont une partie de la direction souhaitait s'affranchir pour faire du PCI un parti politique, entre guillemets, normal, dont on accepte qu'il se serve de son crédit dans la population laborieuse pour accéder à la gestion des affaires, contrairement à ce qui s'était passé au Kerala. Ce point de vue, défendu par ceux qui devaient former le PCIM, était comparable, dans le contexte indien, aux tendances, entre guillemets, euro-communistes dans de nombreux partis communistes européens. Les 2 factions entraînèrent chacune, en gros, la moitié de l'ancien parti, avec une répartition géographique différente, puisque le PCIM resta concentré principalement autour du Kerala et du Bengale occidental, tandis que le PCI maintenu était réparti dans tout le pays. Cette scission devait déborder dans le mouvement syndical lorsque le PCIM quitta la centrale ETUC pour former une nouvelle centrale, la CITU, Confédération des syndicats indiens. Avec le temps, les divergences entre les 2 partis devaient vite s'estomper. Malgré l'image, entre guillemets, radicale qu'il revendiquait, le PCIM n'avait rien perdu de ses traditions staliniennes, ce qu'il montra par exemple en soutenant l'intervention des chars russes en Tchécoslovaquie en 1968. Les 2 partis s'adonnèrent très vite aux mêmes combinaisons politiciennes chères aux partis bourgeois. Avec le temps, la distance qui les sépare est devenue si ténue qu'ils ont fini par engager des négociations de réunification. Et si elles n'ont pas abouti à ce jour, ce n'est sûrement pas du fait de divergences sur la politique d'un parti réunifié, mais tout au plus sur la répartition des places dans ses divers organes de direction. Le problème explosif de la réforme agraire. En mars 1967, 10 ans après la victoire électorale du PCI au Kerala, des coalitions dirigées par le PCIM finirent par remporter les élections dans les États du Bengale occidental, le 4e État le plus peuplé de la Fédération indienne, et du Kerala. Mais il faut croire que le PCIM n'avait pas encore gagné ses galons aux yeux de la bourgeoisie indienne, car, au Kerala, une nouvelle campagne anticommuniste de Delhi provoqua l'implosion de la coalition du PCIM et son remplacement par une coalition dirigée par le Congrès avec la participation du PCI. Au Bengale occidental, le prestige acquis par le PCIM dans les luttes des paysans pauvres et sa promesse d'organiser la redistribution des terres soulevaient les espoirs des campagnes. Mais le PCIM se trouva rapidement paralysé par l'impossibilité de les satisfaire dans le cadre imposé par la propriété bourgeoise. Haresh Krishna Kunar, un dirigeant paysan estimé du PCIM, qui avait été chargé de la redistribution des terres, dut reconnaître que même ses tentatives pour faire respecter les modestes lois agraires introduites par Delhi, sans parler d'une réforme plus radicale, se heurtaient à des obstacles sans fin du fait du raz-de-marée de recours juridiques des propriétaires fonciers. Pendant ce temps, des militants maoïstes du PCIM décidèrent de s'appuyer sur les aspirations des paysans pauvres pour passer à l'action au Bengale. Ces militants estimaient que la révolution était à l'ordre du jour en Inde et qu'elle devait adopter, entre guillemets, le modèle chinois en construisant, entre guillemets, une armée rouge recrutée dans la paysannerie qui encerclerait les zones urbaines. Pour lancer, entre guillemets, leur guerre révolutionnaire, ils choisirent Naxalbari, un district de 750 km² au nord de l'État, peuplé en majorité de métayers et d'ouvriers des plantations de thé, où existait une longue tradition communiste d'organisation. Des comités paysans y furent constitués pour organiser l'armement des paysans. Les tentatives de Kunar pour parvenir à un compromis avec ces comités furent immédiatement torpillées par la police qui, prenant ses ordres de Delhi, passa à l'offensive. Des affrontements armés s'ensuivirent et devinrent quotidiens. Tandis que la paralysie du PCIM lui valait une rébellion dans ses rangs, une opération militaire d'envergure ordonnée par Delhi écrasait les insurgés de Naxalbari en juillet 1967. Puis, ayant fait endosser la responsabilité de la répression au gouvernement du PCIM, Delhi le destitua. Cela n'empêcha pas la coalition dirigée par le PCIM d'être réélue lors des élections anticipées de 1969. Cette fois, espérant anticiper de nouveaux soulèvements, le PCIM prit l'initiative de mouvements d'occupation de terres. Mais en vain. De nouveau, les maoïstes créèrent, entre guillemets, une zone libérée et, craignant de voir Delhi intervenir de nouveau, le PCIM fit le pire des choix possibles. Il fit lui-même appel à la police des frontières pour écraser la rébellion. Mais le fait d'avoir montré ainsi sa volonté de faire respecter l'autorité des institutions de la bourgeoisie ne valut au PCIM aucune reconnaissance de sa part. En mars 1970, le gouvernement du PCIM fut de nouveau destitué par Delhi, qui déclencha une brutale vague de répression dans tout le Bengale occidental. Ces événements firent perdre au PCIM quelque 10 000 membres, perte dont il accusa les maoïstes. Mais si ceux-ci avaient sans doute une part de responsabilité, le problème de fond était ailleurs. Dans la politique du PCIM visant à faire croire aux classes pauvres qu'elles pouvaient réellement changer leur sort dans le cadre d'institutions destinées à défendre la propriété bourgeoise. La crise des années 1970. La fin des années 60 marqua le début d'une décennie de crise politique et sociale à l'échelle du pays. La mort de Nehru, en 1964, avait ouvert une crise de succession que son remplacement par sa fille, Indira Gandhi, n'avait pas réglée. Pour la première fois, le monopole du Congrès sur la vie politique était remis en question par la manifestation publique de ses rivalités internes. Le règne d'Indira Gandhi était marqué par la corruption, le clientélisme et la fraude électorale, au moment même où, avec les premiers symptômes de la crise mondiale, les conditions d'existence de la population se détérioraient rapidement. En juillet 1969, sous prétexte de répondre au mécontentement, Indira Gandhi nationalisa les 14 plus grandes banques du pays. Cette mesure, présentée par les deux partis communistes et condamnée par les puissances impérialistes, comme, entre guillemets, socialistes, avait surtout pour but de permettre à l'État de se substituer à un système bancaire parasitaire qui avait démontré son incapacité à fournir au capital indien les fonds dont il avait besoin pour fonctionner. Mais la promesse d'Indira Gandhi que cette nationalisation libérerait la paysannerie des taux d'intérêt exorbitants des prêteurs sur gage ne se réalisa pas. Au début des années 1970, la situation économique tourna à la catastrophe. La vague de licenciements qui avait commencé dans l'industrie s'accéléra brutalement. Pendant ce temps, les prix explosaient. Au cours des seules années 1973-1974, ils doublèrent alors que les salaires étaient gelés ou réduits. En 1973, le monopole politique du Congrès se trouva contesté au sein de sa propre base sociale. Cette contestation était dirigée par un démagogue anticommuniste, Yaya Prakash Narayan, ancien secrétaire privé du magnat industriel G.D. Birla, l'une des deux familles dominant le capital indien, devenu leader de l'un des petits partis issus de la gauche du Congrès. Ce mouvement, qui devint connu sous le nom de entre guillemets, « mouvement JP », des initiales de son leader, chercha à capitaliser la colère générée par l'inflation et la corruption électorale dans toutes les classes de la société, mais surtout dans la petite bourgeoisie. Il rassembla un éventail politique très large, mais parmi ses forces, celle qui en fournit l'ossature organisationnelle et la rhétorique populiste fut la droite intégriste hindoue. La démagogie de Narayan, qui, au nom, entre guillemets, d'une révolution totale, appelait à en finir avec les partis et le régime parlementaire, illustrait bien cette influence. Le mouvement JP réussit à réunir des millions de protestataires dans les rues. Même l'appareil d'État s'en trouva affecté, comme le montra, entre autres, la mutinerie de Lucknow, dans la capitale de l'État d'Uttar Pradesh, en mai 1973, au cours de laquelle la gendarmerie provinciale se rebella en rejoignant les rangs des manifestants étudiants qu'elle avait reçu l'ordre de réprimer. Tout indiquait la montée d'une crise politique qui commençait à prendre une dimension sociale, avec la participation croissante des classes pauvres aux manifestations. Pourtant, face à la crise montante, loin de lever la bannière des intérêts politiques et sociaux de ces classes, le PCIM se rallia sans réserve au mouvement JP, au nom de l'occasion qu'il offrait de former une coalition électorale susceptible de renverser le pouvoir du Congrès à Delhi. Peu importait aux leaders du PCIM que leur politique mette les classes pauvres à la remorque des leaders réactionnaires du mouvement JP. Quant au PCI, il ne se comporta guère mieux puisque, conformément aux instructions de Moscou, il s'en tint à sa politique de soutien au régime discrédité du Congrès. La classe ouvrière fait irruption sur la scène. Pendant ce temps, malgré tous les efforts des syndicats liés au Congrès, les années 1973-1974 virent une montée de la combativité ouvrière. En particulier, l'industrie du jute du Bengale connut une grève générale de 33 jours, tandis que les ouvriers du textile de Bombay firent grève pendant 42 jours. Deux grèves sur les salaires qui furent dirigées respectivement par le PCIM et le PCI. Mais le mouvement décisif fut la grève des chemins de fer de mai 1974, la plus grande industrie du pays, avec plus d'1,5 million de salariés. Les syndicats y étaient regroupés dans la Fédération pan-indienne des cheminots, AIRF, dirigée par des leaders appartenant à des formations issues de l'aile gauche du Congrès, dont celle de Narayan. Néanmoins, nombre de syndicats affiliés à l'AIRF étaient aussi affiliés aux confédérations dirigées par les deux partis communistes. Et dans la période précédente, le PCIM avait joué un rôle dans la formation de syndicats militants parmi les roulants qui avaient mené une série de grèves victorieuses. En 1973, la direction de l'AIRF subissait la pression d'une base mécontente. Mais, en plus, les dirigeants de l'AIRF, tous liés au mouvement JP, cherchaient à affaiblir un peu plus le Congrès. Autant dire que les intérêts des cheminots ne pesaient pas lourd dans leurs calculs. En juin 1973, le Congrès de l'AIRF choisit comme président Georges Fernandez, leader syndical connu de Bombay et proche de Narayan, et adopta le principe de l'organisation d'une grève nationale sur les salaires pour l'année suivante. Finalement, en avril 1974, le début de cette grève fut fixé au 8 mai. Autant Indira Gandhi s'était montrée hésitante face aux petits bourgeois du mouvement JP, autant sa réaction fut fulgurante. Usant des mesures d'exception héritées de l'époque coloniale, la grève fut interdite et la détention préventive illimitée fut instaurée. Le 2 mai, 300 dirigeants syndicaux furent arrêtés, dont Fernandez et les principaux leaders cheminots connus du PCI et du PCIM. Malgré la répression, la grève fut d'emblée massivement suivie. 10 jours plus tard, l'hebdomadaire de gauche indien Economic and Political Review écrivait « Des cheminots ont été jetés en prison simplement pour ne pas s'être présentés au travail. D'autres ont été arrêtés pour le seul crime d'avoir assisté à un meeting de soutien à la grève. Leurs maisons ont été la cible de raids au milieu de la nuit par des policiers armés. un grand nombre de travailleurs ont ainsi dû passer dans la clandestinité, ce qui a eu pour effet de retourner la hargne du gouvernement contre leurs familles, en particulier celles vivant dans les cités de cheminots. Dans nombre de ces cités, l'alimentation en eau et en électricité a été coupée depuis le début de la grève, tandis que des familles de grévistes étaient expulsées de leur logement. Fermez les guillemets. Le même numéro dénonçait, ouvrez les guillemets, la brutalité organisée des tenants de l'ordre. Les coups de baïonnette sadiques dans les corps des grévistes attrapés par la police. L'entassement dans les prisons de milliers de travailleurs ayant refusé de jouer le rôle de briseurs de grève. Le harcèlement des femmes et des enfants d'ouvriers. Fermez les guillemets. L'échelle et les enjeux de cette grève auraient justifié et nécessité que d'autres sections de la classe ouvrière soient engagées dans la bataille. Mais malgré la grève de solidarité spontanée suscitée par les premières arrestations, rien de sérieux ne fut fait dans ce sens. Finalement, après 3 semaines, malgré la puissance de la grève, l'absence de perspective offensive eut raison de sa combativité. Au moment de la reprise, 15 000 grévistes avaient déjà été licenciés et 50 000 autres qui étaient en prison allaient subir le même sort après avoir purgé des peines plus ou moins longues. Quant au nombre de tués et de blessés, il ne fut jamais rendu public. Étant donné la brutalité de la police et les affrontements nombreux, il fut certainement important. Par la suite, Fernandez reconnut que les grévistes n'avaient pas été préparés et encore moins organisés pour faire face à la répression. Or, compte tenu de la crise politique qui lui servait de toile de fond, cette grève était une bataille qu'Indira Gandhi ne pouvait pas se permettre de perdre. Inversement, la grève était porteuse d'enjeux considérables pour l'ensemble de la classe ouvrière. Mais pour jeter ses forces dans cette bataille, encore lui aurait-il fallu une direction de classe qu'aucun des deux partis communistes ne lui offrit. Du fait de sa politique de soutien au Congrès, si le PCI participa à cette grève, ce fut, pour reprendre les termes d'un article publié dans le journal déjà cité, entre guillemets, à contre-cœur et avec de multiples réserves. 2 jours après qu'elle avait éclaté, le porte-parole du PCI expliquait qu'elle ne devait ni ne pourrait durer bien longtemps. La direction du PCI poussa même la veulerie jusqu'à refuser de protester contre les brutalités à l'encontre des grévistes, dont ses propres militants étaient pourtant également la cible. Quant au PCIM, sans doute usa-t-il d'un langage apparemment plus radical. Mais ce ne fut que dans la 3e semaine de la grève, lorsqu'elle commençait à marquer le pas, que sa centrale syndicale, CITU, finit par lancer une campagne pour l'extension du mouvement à d'autres industries liées au chemin de fer, comme l'acier et le charbon. C'était trop peu et trop tard. Fin 1974, un rapport du comité central du PCIM dressant le bilan de la grève devait reconnaître, ouvrez les guillemets, nous n'avons pas réalisé toute la signification politique d'un tel mouvement d'ampleur nationale de la classe ouvrière. C'est tout le parti et les masses qui le soutiennent qui auraient dû être mobilisés derrière ce mouvement. Fermez les guillemets. C'était un euphémisme dérisoire, s'agissant de la plus grande grève qu'ait connue le pays, et elle le reste à ce jour, avec, en toile de fond, une crise politique dans laquelle une fraction importante de la population était mobilisée contre la corruption et le parasitisme dominant la société. La classe ouvrière aurait pu offrir une perspective à cette mobilisation, mais à condition d'user de toutes ses forces et de se battre pour un programme susceptible d'entraîner les classes pauvres. Or, c'était là le genre de perspective que la direction du PCIM avait depuis longtemps abandonné. La défaite de la grève des cheminots fut un désastre pour la classe ouvrière. La véritable sanction vint le 26 juin 1975, lorsqu'Indira Gandhi mit un terme à la crise politique en décrétant l'état d'urgence. 6 mois plus tard, on devait compter 175 000 prisonniers politiques et 26 organisations dissoutes. Delhi destitua les 2 seuls gouvernements d'État non dirigés par le Congrès. Les grèves furent déclarées illégales. Les primes annuelles des travailleurs permanents, une grosse part de leur salaire, furent réduites de moitié. Par la suite, 500 000 travailleurs permanents furent licenciés, tandis que dans les grandes villes, les rouleaux compresseurs vidaient les quartiers ouvriers de leur population et de leurs taudis au profit des promoteurs. Les contraintes imposées jusqu'alors aux investisseurs étrangers furent assouplies, ce qui valut à Indira Gandhi les louanges des commentateurs occidentaux, soulagés de constater que cette dangereuse, entre guillemets, socialiste avait finalement vu la lumière. Le PCIM à la recherche d'une nouvelle base sociale. Fin 1976, Indira Gandhi décida qu'étant donné le discrédit de son parti, le mieux était de laisser la place, le temps de redorer son blason. Des élections législatives furent organisées en janvier 1977, dans lesquelles le Congrès perdit sa majorité au profit du Janata Party, parti du peuple, issu du mouvement JP. Le PCI paya son alliance au Congrès en perdant 16 de ses 23 sièges. Pour sa part, le PCIM ne perdit que 3 de ses 25 sièges et remporta de nouveau la majorité des sièges dans l'État du Bengale occidental, où il devait être réélu régulièrement jusqu'en mai 2011. Mais aussi dans l'État du Tripura, minuscule enclave indienne au nord du Bangladesh, où il devait rester au pouvoir pendant plus d'une décennie. Au Bengale, pour ne pas s'exposer à une nouvelle destitution, le PCIM fit preuve d'un respect remarquable des institutions. Comme le nota la revue déjà citée, ouvrez les guillemets, une fois au pouvoir, le PCIM ne se soucia guère des aspirations de la population à voir sanctionner les exactions de l'état d'urgence. Il fit en sorte que les policiers qui s'étaient taillé une réputation pour leur brutalité n'en souffrent pas, même dans leur déroulement de carrière. Fermez les guillemets. Le parti se montra tout aussi réticent à amnistier les emprisonnés de l'état d'urgence, mais plus encore les anciens insurgés de Naxal Bari. Le PCIM adopta une approche similaire de la question agraire. Il ne fut plus question d'encourager les occupations de terres, mais de suivre les règlements à la lettre. Comme le leader du PCIM et premier ministre du Bengale, Jyoti Basu, devait le dire plus tard, son gouvernement jouissait, entre guillemets, de pouvoirs limités. Il devait opérer dans le cadre d'une économie capitaliste marquée par le féodalisme. Nous étions handicapés par l'hostilité de l'administration fédérale. Dans cette situation, il nous fallut expliquer à la population que nous ne pouvions parvenir à aucun changement fondamental. Mais n'était-ce pas le choix du PCIM que de diriger ces institutions malgré ce handicap ? On polémiqua dans le parti sur le fait de savoir quelle catégorie de paysans devait bénéficier de la redistribution des terres. 10 ans plus tôt, la ligne officielle avait été, entre guillemets, de faire des travailleurs agricoles et des paysans les plus pauvres l'épine dorsale et la force motrice du mouvement. Mais en 1977, le consensus au sein du parti fixait à 10 hectares le plafond au-dessus duquel une propriété devait être sujette à redistribution. Or, au Bengale, 94% des propriétés étaient en dessous de ce plafond, ce qui laissait fort peu de terres à redistribuer. De façon significative, le principal argument utilisé en faveur d'un plafond aussi élevé était que, plutôt que de s'aliéner les paysans moyens, il assurait au PCIM une base électorale plus stable que celle dont il disposait jusqu'alors. La même logique présida à l'opération Barga, qui vit la mise en place d'un registre des métayages et d'une législation garantissant aux métayers enregistrés une part minimum de leur récolte et la possibilité de transmettre leur contrat de métayage à leur descendance sous certaines conditions. Mais là encore, ce ne furent pas les plus pauvres qui bénéficièrent de ces mesures, car 88% des métayers du Bengale étaient aussi des propriétaires qui s'apparentaient par leurs revenus aux paysans moyens. En revanche, les mesures prises ne bénéficièrent que très peu aux 45% de paysans sans terre du Bengale. Les redistributions furent paralysées par les méandres du système légal où allaient se perdre les recours des propriétaires. La petite minorité d'entre eux qui bénéficia de ces mesures au cours de la période 1977-1989 ne reçut qu'à peine plus de 2000 mètres carrés de terre cultivable en moyenne, ce qui n'était souvent pas même suffisant à la survie d'une famille. Au bilan, la politique du PCIM lui permit sans doute d'augmenter et de stabiliser sa base électorale dans la paysannerie moyenne et les catégories sociales qui en dépendaient, mais aux dépens des classes les plus pauvres qui l'avaient porté au pouvoir. Le coût de la gestion des intérêts de la bourgeoisie. Le rôle de gestionnaire loyal des institutions de la bourgeoisie que le PCIM a choisi de jouer après 1977 l'a conduit à s'engager sur des terrains de plus en plus douteux, loin des luttes sociales auxquelles nombre de ses militants continuaient à participer. Dans la campagne du Bengale, les organes élus créés pour mettre en œuvre sa politique agraire furent vite dominés par la paysannerie moyenne et devinrent des instruments de clientélisme justifiés par la nécessité de consolider sa base électorale. Dans les zones urbaines, une autre forme de clientélisme se développa autour des emplois et contrats publics et de la perception des impôts qui conduisirent à des pratiques tenant parfois du racket. En 1991, l'hebdomadaire déjà cité notait, Au Bengale, il y a déjà plus d'une douzaine de groupes de communistes en rupture de ban. Au Tripura, quelque 200 militants ont démissionné du parti pour protester contre ce qu'ils dénoncent comme des pratiques entre guillemets antidémocratiques. En Orissa, un état de l'Est, il y a quelque temps déjà, Anan Root, un dirigeant syndical estimé, avait scissionné du parti avec un nombre important de militants locaux. Mais au mois de novembre, il a été assassiné par des partisans de la ligne officielle alors qu'il dirigeait une grève dans les mines de charbon. L'une des principales critiques des dissidents porte sur l'absence de formation politique offerte par la direction à la jeune génération qui, en particulier au Bengale, est venue au parti principalement pour profiter des avantages qu'elle pouvait en obtenir. Parmi ces critiques figurent aussi de nombreuses allégations de corruption à l'encontre d'élus locaux du parti. Fermez les guillemets. La montée de la corruption dans les rangs du PCIM au Bengale alla de pair avec sa complaisance envers divers courants réactionnaires. Ainsi, en 2004, pour plaire aux organisations religieuses musulmanes, le PCIM interdit la vente au Bengale de l'autobiographie de la militante féministe et anti-intégriste bangladeshi Taslima Nasrin. Puis, en 2008, il refusa de prolonger le visa qui lui avait permis de vivre au Bengale pendant 4 ans. Dans d'autres domaines, le PCIM se trouva pris au piège de ses propres choix. Pour répondre à l'explosion du chômage résultant de la disparition des industries traditionnelles du Bengale, le PCIM chercha très tôt à attirer les investisseurs, mais sans succès. Puis, en 2006, lorsque Delhi lança un programme de zone économique spéciale, CESE, le PCIM lui emboîta le pas, affirmant qu'il fallait, entre guillemets, laisser l'industrie se développer à son propre rythme, sans interférence politique. Le premier grand projet, en 2006, fut une usine d'assemblage de la Nano, la voiture du peuple, du groupe Tata, sur une zone de 400 hectares de terres cultivées, à Singur, près de Calcutta. L'usine devait créer 2700 emplois directs et 14 000 indirects. Mais la qualification requise pour beaucoup excluait la population locale, alors que 4 000 ouvriers agricoles et 13 000 familles devaient partir. Ce fut l'intervention du rival régional du PCIM, le Trinamool Congress, une scission régionale du Congrès, et de groupes maoïstes qui, par ricochet, amena la population à se mobiliser. Lorsque les nervis du Trinamool Congress s'attaquèrent au PCIM local, celui-ci riposta en envoyant des militants de la ville qui s'en prirent au passage aux paysans. Du coup, la brutalité du PCIM réussit à faire ce que le Trinamool et les maoïstes n'avaient pas pu faire. Elle mobilisa les paysans contre le projet Nano et, après 2 ans d'affrontements récurrents, le PCIM dut renoncer à ses plans. Mais il y eut pire la même année avec le projet du groupe chimique indonésien Salim de construire une CESE à Nandigram, non loin de Calcutta, sur plus de 9000 hectares de terres cultivées. Nandigram était un bastion du PCIM, mais lorsque celui-ci envoya la police contre les paysans, il fit l'unanimité contre le projet. Lorsque des paysans furent blessés par balles lors d'une manifestation, les bureaux du PCIM furent mis à sac, conduisant à une bataille rangée faisant 4 morts, dont 3 paysans et 20 de blessés. Plus tard, un raid de la police fit encore 10 morts et, 9 mois après, le PCIM dut de nouveau renoncer. Ces événements, qui connurent un fort retentissement, soulignèrent le fait que le recours au gangstérisme, non seulement de la police, mais de son propre appareil, était devenu un moyen pour le PCIM d'imposer ses décisions aux masses pauvres. Une telle évolution était évidemment liée au lourd héritage stalinien du PCIM, mais elle était avant tout dans la logique de son choix de gérer les institutions étatiques de la bourgeoisie. Dans ces conditions, on ne peut pas s'étonner qu'après 37 ans au pouvoir au Bengale, le PCIM ait fini par en être chassé par le Trinamool Congress lors des élections de mai 2011. Encore que, même si certains commentateurs occidentaux se sont empressés d'y voir, entre guillemets, la fin du communisme en Inde, le PCIM aura quand même récolté 30% des suffrages, 14 millions de voix, dans cette élection, ce qui lui laisse de beaux restes. Pendant ce temps, au Kerala, la coalition du Front démocratique de gauche, dirigée par le PCIM et le PCI, continue d'alterner au fil des élections avec une coalition dirigée par le Congrès. Enfin, dans le petit état du Tripura, le PCIM est au pouvoir depuis 19 ans avec plus de 3/4 des sièges au Parlement de l'État. Aujourd'hui, le PCI et le PCIM continuent à dominer la gauche indienne, avec des effectifs qui se situent entre 1,5 million et 1 million de membres chacun, suivant les estimations. Et si le PCI est moins présent sur le terrain électoral, il l'est plus sur le terrain syndical, grâce à sa centrale syndicale, l'ETUC, qui reste la plus importante dans la classe ouvrière industrielle. Malgré leur nom, cela fait longtemps que ces deux partis ont renoncé au programme communiste. Mais leur existence et le poids qu'ils ont conservé dans la société indienne ont entretenu malgré tout une tradition d'organisation politique dans la classe ouvrière qui peut servir à d'autres. Car le drapeau communiste que ces partis ont abandonné, d'autres peuvent le reprendre, et avec lui, la tradition de l'internationalisme prolétarien que défendaient, dans les pires conditions, les militants qui les créèrent. À un moment où les chantres du capitalisme prétendent ne voir dans l'Inde qu'une, entre guillemets, « économie émergente », comme ils disent, qui promettrait un second souffle à ce monde capitaliste pourrissant, la force colossale que constitue la classe ouvrière et les masses pauvres indiennes pourrait aussi, entre guillemets, émerger avec la promesse d'une autre société pour l'humanité. Mais pour cela, il faudra que ceux qui veulent un tel avenir s'arment du programme communiste et s'attellent à la tâche de construire le parti ouvrier révolutionnaire que les partis communistes indiens ont depuis longtemps abandonné. 25 mars 2012.